Salut et bienvenue dans l'épisode 6 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Autour de la table ce lundi, Christophe Buron, Arnaud Clergue et Frédéric Vernat. Messieurs, bonjour.
Bonjour, salut, bonjour, bonjour à tous.
Salut à tous.
Salut à toutes et tous.
Alors, après deux défaites consécutives, l'ASM s'est relancé en dominant le Racing samedi soir au Michelin, victoire 23-18 lors de la 9e journée du top 14. Le top 14 qui va faire une pause pendant deux semaines là, pour laisser place à la première parenthèse européenne de la saison. L'occasion pour nous de dresser un premier bilan. Quels sont les tops et les flops clermontois après un tiers du championnat? On va y répondre d'ici quelques petites minutes. Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la Challenge Cup donc, qui débute ce week-end avec cette question, quelles ambitions peut viser l'ASM dans cette compétition? Et enfin, nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons sans plus attendre au thème principal de cette émission. Quel bilan peut-on dresser pour l'ASM après un tiers de la saison? Un peu plus d'un tiers, hein, puisqu'on a joué 9 journées. Déjà, une première question toute simple avant de vous donner la parole, messieurs. L'ASM est 8e avec 23 points, ex aequo avec Toulouse 6e. Clermont est-il à sa place dans ce top 14?
Alors 8e, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que je crois qu'ils ont plusieurs à 23 points, que derrière, c'est juste derrière, donc c'est un week-end à l'autre, tu peux passer de la 5e à la 10e. Mais en termes de bilan comptable, c'est juste moyen, hein. C'est à zéro au classement britannique, donc en un mot, en un seul, je dirais que c'est moyen.
Arnaud?
Ouais, oui, Christophe a raison. Les équipes de tête ont 6 victoires. Clermont avec Toulouse, Bordeaux-Bègles ont 5 victoires au compteur. Donc on se rend bien compte que d'un week-end à l'autre, les positions peuvent s'inverser. C'est un championnat qui est serré, comme d'habitude, comme chaque année. L'ASM n'a pas été très performante à l'extérieur, encore une fois, mis à part cette victoire à Montpellier. Mais avec du recul, on voit bien que le MHR est une équipe à prendre en ce début de championnat. Donc l'ASM, c'est plutôt moyen plus, je dirais. Donc moyen plus, c'est juste en dessous de la 6e place au contact des équipes qualifiables pour les phases finales. Donc oui, l'ASM est à sa place.
Et toi, Fred? Moyen plus, ça me va bien, moi, comme expression. Je suis assez d'accord avec le constat d'Arnaud. Ce qu'il y a, c'est cette défaite.
C'est quoi la différence entre un moyen plus et un moyen?
on est plutôt dans le positif, je
d'accord.
trouve.
D'accord. Je suis pas dans le négatif. Sur
la configuration depuis le début du championnat. Je trouve ce qui change tout, c'est la défaite à domicile contre Toulon.
Ah, elle change tout, complètement.
Elle change la lisibilité de ce classement avec 3 points de plus. L'ASM serait installé et bien installé dans le top 6, et avec une victoire à l'extérieur, hein, sans faute à domicile, évidemment la lecture de ce début de saison serait totalement différent. C'est frustrant, pour autant je trouve que, comme le disait Christophe, l'ASM est dans les clous. Ça c'est sur le plan comptable. Sur le plan des prestations, je trouve qu'il y a quand même plus de choses positives que négatives. On a revu quelques travers, surtout à l'extérieur. Arnaud l'a relevé.
On a surtout vu Laurent Travers ce week-end. On l'a revu.
Ça marche. Excellente blague. Y a des choses qui n'ont pas fonctionné à certains moments de la saison, mais globalement, je trouve qu'on a l'impression qu'il y a un resserrement des vis dans pas mal de secteurs, et j'imagine qu'on va être amené à.
On va évoquer tout ça effectivement dans les prochaines minutes. Alors, messieurs, je vais demander un top pour commencer sur ce premier tiers du championnat. On argumentera dans un deuxième temps. On va commencer avec toi, Christophe.
Eh ben, je vais en top, je vais dire l'ouvreur argentin, Urda Pileta, Benjamin, qui a tout changé, enfin qui a changé beaucoup de choses dans cette équipe. Au-delà de sa réussite au pied, qui a fait passer le club à plus de 80% de réussite dans l'exercice des tirs au but, c'est-à-dire que je crois que c'est dans le top 5 au moins des clubs du top 14. Faut savoir d'où on vient, hein. Je ne vais pas rappeler des mauvais souvenirs à certains, je ne veux pas qu'ils nous fassent du breakdown nervous, mais on était en dessous de 70% l'année dernière. Donc ça change déjà en termes comptables par rapport à la réussite entre les perches, enfin les tirs au but. Mais ça change tout aussi en termes de conduite du jeu, de leadership, de confiance apportée à l'équipe. On voit bien qu'Urda Pileta est un vrai leader et que quelque part, il doit diffuser quelque chose qui est forcément profitable
Le caractère.
Le caractère, déjà. Mmh. Il apporte une confiance qu'il n'y avait peut-être pas l'année dernière avec les deux joueurs qui avaient été recrutés et qui avaient besoin d'être relancés, mais peut-être pas dans un club comme Clermont.
D'accord. On y reviendra dans un deuxième temps. On va passer à ton top, Fred.
Mais moi, je me suis fait prendre le ballon des mains par Christophe Buron, donc je vais élargir.
C'est l'expérience que je t'ai eue.
Je vais élargir et plutôt parler du recrutement en général que je trouve à ce stade de la saison. Il faudra le juger aussi d'ici quelques mois. Hein. C'est, finalement, cette saison, elle est, surtout avec cette coupure Coupe du Monde, on a eu que combien 8 matchs 9 matchs pardon, de top 14, c'est peu à la fois. Mais ça a permis de voir que ce qui avait été ciblé par l'ASM, c'est pas un recrutement, je dirais, quantitatif, mais plutôt qualitatif. Et Urda Pileta est une super pioche. Alors, c'est peut-être du bricolage hein, pour certains par rapport à un poste sinistré d'ouvreur, mais c'est du bricolage, je trouve, de génie le concernant. Je trouve que Fainga, c'est une super pioche. Hein. Il a déjà montré en quelques matchs tout ce qu'il pouvait apporter au poste de talonneur, sa densité physique notamment.
Et de tempérament, je trouve que c'est un garçon de tempérament qui est.
Ouais, on le sent, ouais. On le sent.
Dans une équipe qui en avait besoin.
Bon, on l'a vu samedi notamment. Hein,
oui, mais même sur les matchs avant.
Et sur les matchs précédents, mais c'est vrai que.
Samedi notamment, oui, c'est vrai.
Bah, un autre qu'on a bien vu samedi aussi, c'est Marcos Kremer. On l'a assez peu vu, eu égard à la Coupe du Monde, où il a été brillant avec les Pumas, mais on sent que lui, voilà, très clairement, il va faire un bien considérable dans un secteur qui était lui aussi un peu sinistré, il faut bien le dire, à l'ASM. Sowakula, on l'a pour ainsi dire peu vu, mais malgré tout, j'ai l'impression qu'on sent qu'il y a là encore un potentiel toujours sur ce domaine de la densité physique et puis bah, les autres il faudra attendre de voir, mais globalement je trouve que ce recrutement est réussi. Et dans ce recrutement il faut aussi parler du staff, du réajustement du staff et de l'arrivée des adjoints de Christophe Furios. Je trouve que voilà, on sent un club, on sent davantage la patte Christophe Furios cette saison, c'est assez naturel, et on sent que le club avance dans le bon sens.
Arnaud ?
Alors moi, le gros top là, de ce début de saison, c'est la troisième ligne. Je pense que dans cette saison qui a débuté, vous l'avez rappelé, on en est au tiers du championnat, mais je pense que vraiment la troisième ligne, c'est un gros point fort pour cette équipe de l'ASM. Frédéric, vous avez souligné à juste titre l'apport de Marcos Kremer, mais il change tout. Il change tout parce qu'il est complémentaire de joueurs comme Tixeron ou Pesceli Yato ou Fritzi. Marcos Kremer, c'est pas un porteur de balle génial, mais c'est un mec qui va défendre de la première à la 80e minute. Là, contre le Racing, il a fait 19 plaquages. C'est des chiffres, de haute voltige en top 14. Ouais, ça va être une troisième ligne complémentaire avec des mecs coureurs comme Tixeron, des gros porteurs de balles comme Pesceli Yato, des mecs d'expérience comme Fritzli. On a Sowakula encore, on l'a très peu vu à l'œuvre, mais on se doute de quoi il est capable. C'est un gros porteur de ballon. Normalement, hein, c'est un gros porteur de ballon, un bon joueur de rugby. Donc ouais, on a des Lucas Desaigne aussi qui sont des gros plaqueurs. Ouais, c'est vraiment une troisième ligne qui est ultra complète et c'est un atout, ça sera un atout pour l'ASM.
Je voudrais mettre juste deux petits mémoles. Alors déjà sur la remarque, enfin le top de Fred, je suis un peu gêné qu'il n'ait pas cité aussi Rob Simons, qui pour moi
qui est
la tour de contrôle et qui explique le bon comportement de la touche clermontoise cette année.
La touche,
hormis bien sûr le match samedi.
Petite stat, je te coupe Christophe, ce que tu donnais dans les colonnes de la montagne ce matin, 90,5% de touches assurées sur leur propre lancée avant le match contre le Racing, ce qui en dit long quand même sur effectivement l'efficacité de l'alignement clermontois.
Et on parlait de caractère, lui est un joueur de caractère.
Ouais, et puis on sent qu'il il sent le rugby, puis bon, il n'y a rien à faire quand t'as sans sélection
avec les Wallabies
en Australie, ça peut pas être un bidon quoi. Et autre petit bémol, pour moi le point noir du recrutement, et ben c'est un petit peu le même que l'année dernière, enfin un des nombreux points noirs de la saison dernière, c'est l'absence de recrutement en pilier droit, parce que pour la deuxième année ils se sont fait et ben ça a été un coup d'épée dans l'eau. Il y a eu la Claya il y a 2 ans, et puis cette année, enfin là, maintenant il y a un an et demi.
Là, c'est totalement imprévisible.
Et là, Awas, mais c'est. Enfin,
le cas Awas,
le problème, c'est que.
La fatalité.
J'ai la faiblesse de penser que d'autres clubs auraient trouver un palliatif, une solution de rechange. Là, il n'en a pas été question pour des raisons peut-être budgétaires, de salary cap, de timing par rapport à ce qu'il y avait sur le marché, de la Coupe du Monde. Mais cette absence d'un pilier droit peut peser lourd sur une durée d'une saison entière.
Mais quand j'entends vos arguments et vos tops, pour rebondir sur ce que tu dis sur ce côté recrutement, on s'aperçoit malgré tout quand même qu'il y avait beaucoup de manques qui avaient été ciblés par rapport à la saison dernière. Manque de leader, le manque de joueurs au niveau du pack capable de faire le sale boulot, de faire... Et il y a quand même beaucoup de cases qui ont été cochées sur ce recrutement-là et on voit aujourd'hui les fruits.
Je ne vais pas tirer sur l'ambulance ni taper sur les malades, mais c'est vrai qu'à ce poste d'ouverture, eh ben, la saison dernière, Anthony Bello et Jules Plisson ont été en souffrance et que là, on voit tout l'apport d'un garçon qui a la confiance de Christophe Furios, ça c'est une chose, et qui apporte du haut de ses 37 ans une expérience énorme. Et un caractère et une confiance à toute l'équipe. Et ça change beaucoup de choses, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc oui, pour moi, c'est un manque qui a été comblé. Parce que les deux qui ont été recrutés la saison d'avant, ils étaient dans des situations compliquées dans leurs clubs respectifs, à Toulon et à La Rochelle. Ils avaient besoin de se relancer, mais malheureusement, ils sont venus se relancer dans le mauvais club. C'est-à-dire que c'est un club qui était déjà un peu malade. Qui avait besoin,
et lui-même à la relance.
Qui était également à la relance. C'était pas du tout le... C'était pas les bons hommes au bon endroit.
Tu as commencé d'en parler un peu tout à l'heure, Fred. Tu disais que Christophe Furios, c'est sa première saison pleine, hein, lui qui est arrivé en janvier dernier. Il met sa patte, ça se sent, on le voit au niveau du recrutement. Et est-ce que la présence aussi de ces deux adjoints historiques, entre guillemets, lui apporte aussi de la sérénité, cette confiance, ouais, et puis son cadre de travail, entre guillemets, il a ses habitudes autour de lui.
C'est évident, c'est même pas moi qui le dis, c'est lui. Hein. Lui, il l'a dit.
Ils apportent les cautions au rugby, c'est tout, hein, tout ce qui est technique. Hein, il le dit lui-même, hein, que c'est, le rugby, c'est pas forcément son truc à lui, c'est celui de ses deux adjoints. Hein.
C'est un manager, oui, c'est un meneur d'hommes. Ouais. On l'a souvent relevé ici. Et les bienfaits de l'arrivée de ces deux compères, évidemment, se sont fait sentir tout de suite. Je me souviens qu'il tenait ce discours-là avant même le premier match de la saison. Dès cet été, on sentait un Christophe Furios qui était heureux. Il l'a dit plusieurs fois, il a dit « je suis bien ». Je suis bien à Clermont et je trouve que ça se ressent aussi effectivement dans l'équipe. C'est une équipe qui commence aussi à avoir un petit peu sa patte sur le caractère. Je pense qu'il y a encore un potentiel important de progression, mais cette équipe elle lui ressemble de plus en plus.
C'est sûr que ça doit être difficile au départ de remplir les exigences élevées d'un Christophe Furios, que ce soit à l'entraînement ou avant les matchs ou la méthode Furios, c'est le travail.
Donc ça en magne quelques-uns.
Oui, ça en magne probablement quelques-uns, mais c'est vrai qu'on commence à sentir ça, on commence à apercevoir, c'est très perceptible de des joueurs qui commencent à être en adéquation avec le discours, ouais, effectivement.
Alors, tu as cité l'exemple de la troisième ligne avec des joueurs comme Kremer, comme Sovacula, donc qui sont arrivés plus tard. Il y a Lavanini, même s'il n'est pas troisième ligne, qui a disputé son premier match avec l'ASM samedi face au Racing. Clermont, qui n'avait certes pas beaucoup d'internationaux, mais qui a été impacté aussi par cette Coupe du Monde. Christophe Furios a un effectif maintenant quasi complet, avec assez peu de blessures. Et c'est aussi un point positif par rapport aux saisons précédentes.
Oui. Ça, c'est très juste de le signifier par rapport aux saisons précédentes. Et effectivement, l'infirmerie est bien moins remplie.
La dernière, à la même époque, était entre 15 et 18. Hein. Alors, sauf qu'à cette époque, l'année dernière, il y avait déjà eu une grande partie de la saison. Oui. Il n'y avait pas eu la Coupe du Monde.
Il n'y a pas oublié qu'il y a eu deux mois de coupure.
Donc il faudra peut-être comparer avec peut-être mi-janvier ou quelque chose comme ça. Quoi. Mais pour l'instant, il y a moins de blessés. Oui.
Mais là, Clermont va prendre la pleine mesure. Alors, certes, on n'est qu'au tiers du championnat, même si on est début décembre. C'est plutôt positif pour la suite, avec son effectif quasiment au complet, avec ce que l'équipe propose. La confiance arrive aussi.
Moi, je me dis que c'est aussi un...
Les voyants sont ouverts.
Un effectif qui a été un peu moins concerné par la Coupe du Monde que d'autres, et on le voit en top 14, on le voit sur ces dernières journées. Qu'est-ce que c'est dur d'enchaîner Coupe du Monde et top 14, et il n'y a quasiment pas d'exemple là, d'internationaux, de joueurs de renom qui arrivent à garder un niveau...
Et pas impacté par des mondialistes à forte déconvenue, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
C'est-à-dire que les mondialistes qui sont rentrés, voilà, les Argentins, ils ont fini en demi-finale. C'est pas franchement
on connaît
des nations et notamment des clubs où ça a été un peu plus impactant.
Des nations qui jouent en bleu, blanc, rouge, notamment.
Peut-être.
Peut-être.
Qui chantent la Marseillaise avant les matchs.
Très bien. Après les tops, on va passer au flop. Même principe. Et on va commencer avec toi, Christophe.
Et ben mon flop, moi, c'est le choix qui a été fait du Capitana avec Ira et Simonet qui est discutable, à mon sens, hein, qui a beaucoup fait parler, écrire. Alors, je ne conteste pas le leadership du garçon en dehors du terrain, même peut-être sur le terrain, d'une manière qu'on ne perçoit peut-être pas, nous, de l'extérieur. Mais je trouve que dans ce rugby, et surtout sur cette partie de saison où est arrivé comme acteur central l'arbitrage, c'est important d'avoir, à mon sens, quelqu'un qui puisse ne serait-ce que parler avec les arbitres, je ne parle pas de les influencer, mais d'avoir cette liaison, cette relation avec les arbitres. Et Simonet ne peut pas l'avoir, il ne parle pas français, donc c'est très compliqué.
On en a parlé la semaine dernière, l'illustration la plus cinglante de oui, ça, c'était à Toulouse, sur le laisser refuser à Yerim Fall.
Même si hier soir, lors du Stade français Toulouse, j'ai vu plus que le capitaine toulousain parler à l'arbitre, parfois. Hein, c'était Montrenini leur a dit de se calmer, mais bon... Bon, Ramos, capitaine, il parle beaucoup déjà, mais il y a eu un ou deux autres Toulousains qui se sont
beaucoup d'actions bon. Contestées ce week-end, même sur le ASM Racing.
C'est pour ça que Bézi a pris la parole à Toulouse et on continuera à la prendre. Enfin, en plus, j'ai peur que Simonet soit blessé peut-être pour un petit moment. On n'a pas encore le verdict de sa blessure. Mais je trouve que ce choix, oui. Et puis, il concerne pas un joueur qui est indiscutable à 100%. La preuve, c'est que Uros a mis 3 matchs ou 4, je crois, dans les tribunes parce qu'il n'était pas satisfait de son rendement. Donc voilà, ce choix de capitaine en premier.
Ce qui est assez fort chez lui, c'est qu'il a réussi sur les derniers matchs, que ce soit à Toulouse, même sur le début de match avant qu'il se blesse contre le Racing, à remontrer le niveau qui était le sien avant. Parce que ça a pas dû être, il n'a pas dû passer une période facile, c'est ce que disait Christophe Ferreus aussi, entre les réunions qu'il a eues avec les joueurs, notamment après son match à Lyon, il a fallu qu'il rebondisse, il a dû passer par des moments compliqués, mais il a réussi justement à rebondir.
Sur un match et demi, oui, il avait retrouvé un niveau un peu plus...
À confirmer, bien sûr, mais...
Un peu plus conforme à son potentiel.
Ouais, même si c'était pas encore des standards... les standards qu'il peut avoir. C'est défensivement, surtout, qu'à Toulouse, il a été vraiment pas mal. Après, offensivement, il apporte pas encore le truc qu'on lui attend. Je me rappelle, et je le redis souvent, quand il a signé, tout le monde regardait ses highlights. On voyait traverser le terrain... dans le championnat du Sud, je ne l'ai jamais vu faire ça à Clermont.
Oui, mais là, il faut peut-être replacer dans le contexte, c'est comme voir les vidéos de Sovacula. Quand vous regardez les matchs de près, vous vous rendez compte que c'est pas du biche rugby, mais ça ressemble quand même à... ça n'a rien à voir avec ce que propose le top 14. Donc, il faut être toujours prudent avec le tri des...
Il faut éviter de recruter sur vidéo, je crois.
Ouais.
Tout super rugby.
Ça avait marché à Saint-Etienne avec Alex et Elozio, mais...
Oui, il y a eu d'autres
soucis. C'était 3 matchs, il avait été maintenu à l'écart 3 matchs, c'était Bayonne-Toulon et Bayonne-Montpellier-Toulon. Ouais.
Fred, ton flop.
On parlait de classement des bons comptes de l'ASM, moyen plus on disait, sur l'aspect comptable. Il y a un classement en revanche qui est un peu moins glorieux pour l'ASM en ce début de saison et on pouvait s'y attendre, c'est celui des GIF depuis le début de saison. Il faudrait refaire les comptes avec ce dernier match contre le dernier match de ce week-end contre le Racing. Il n'a pas fait grimper la moyenne non plus. Clairement, on sait que l'ASM a un effectif qui est un petit peu en difficulté par rapport à cette donnée-là. Le recrutement dont on a parlé aussi est quand même très orienté sur l'international. Ça dit beaucoup de choses d'ailleurs aussi, sur sans doute les possibilités de l'ASM aujourd'hui à attirer peut-être des joueurs français de renom, en tout cas de très bon niveau. Mais je pense que c'est lié et au final on se retrouve donc avant à avoir l'ASM qui se retrouve aujourd'hui légèrement en dessous de la la ligne de flottaison au niveau des GIF, hein, c'est 16,1 si je ne si dis pas de
bêtises. Après le match du Racing, ouais.
Le compte est bon, comme dirait Bertrand Renard.
Le club doit être à 17 pour être dans tous les clous. Alors, il y a les histoires de primes et de sanctions de points éventuelles, mais toujours
en
est-il...
En dessous de 16, hein, sanctions sportives et au-dessus de 17. Voilà.
Mais toujours est-il que sur l'histoire récente de l'ASM, enfin sur l'histoire en fait de l'ASM, c'est un peu décevant puisque c'est un club formateur, un club qui a toujours sorti beaucoup de jeunes. C'est dommage de voir l'ASM se retrouver dans cette position là aujourd'hui.
Arnaud, ton flop.
J'étais en train de me remémorer, j'ai eu un trou de mémoire, mais ça m'est revenu, c'est bon. C'est bon. c'est le manque de profondeur concernant les lignes arrière. Je me suis fait la remarque pendant le Racing, pendant le match contre le Racing, à un moment je me suis dit punaise, c'est vrai que ça soit quand Olivier Ratiraka n'est pas là quand même. Et c'est symptomatique du manque d'effectifs que connaît l'ASM sur tous les postes des lignes arrière. Je veux dire, s'il n'y a pas Moala au centre, c'est compliqué. Derrière Newsom, c'est compliqué. Aux ailes, derrière Raka et Delgui, c'est compliqué. Je pense que pour la saison prochaine et le futur de l'ASM, je pense vraiment maintenant que le recrutement devrait être ciblé sur ces postes arrière parce que ça risque de devenir compliqué.
Mais sur les joueurs que tu viens de citer, et ça rebondit aussi sur ce que disait Fred à l'instant, tu parles de Delgui, tu parles de Moala, Newsom, c'est des joueurs étrangers.
Exactement.
Est-ce que justement cette question des GIF, ça peut représenter un frein pour l'ASM en vue de cette qualification là pour le top 6 sur les prochaines semaines
Ce qui est très embêtant, on va pas se mentir, c'est si Christophe Furio s'il dresse son 15 type de la saison, il est pas du tout dans les clous au niveau des GIF. Donc quoi qu'il arrive, il est obligé cette saison, compte tenu de l'effectif, de composer avec cette donnée là et donc quelque part de ne pas aligner sa meilleure équipe au moment où il le veut.
Et plus la saison avancera, s'ils sont pas vraiment installés dans le top 6, ça deviendra compliqué parce que pour gagner les matchs, il sera obligé de mettre une équipe qui sera pas trop à vocation GIF. Donc,
on rappelle que les matchs de phase finale
et les matchs de phase finale comptent aussi dans les GIF aussi.
Les phases finales, ça compte dans la moyenne à la fin de la saison, sachant qu'ils font un
total.
Ils font un total de tous les matchs joués phase finale comprise, en enlevant deux matchs.
Non, ça n'existe plus ça dans les règlements. Oui. C'est moyenne lissée sur tous les matchs.
Ils n'enlèvent plus le match où il y a le moins de GIF et celui où il y a le plus de GIF.
Non.
Bon. Nous vérifierons, Maître Capello.
D'accord.
Mais ça sera compliqué, quoi qu'il arrive. Sauf si l'ASM venait à s'installer dans le top 3.
Et on revient. Gérer quelques matchs.
Pour pouvoir gérer des matchs, oui.
C'est un peu ce qui s'est passé en partie à Toulouse. À Toulouse, on a bien senti qu'il y avait eu un rééquilibrage aussi.
Ouais. Et
je pense qu'il faut s'attendre aussi à quelques... On n'utilise plus beaucoup ce mot-là. C'était très populaire dans le top 14 il y a quelques saisons. Mais d'impasse à l'extérieur sur certains matchs. Peut-être se dire, là, on va...
On se rend compte d'une chose, c'est que ce qu'on appelait impasse avant... On peut plus mettre ce terme.
Il n'y a plus d'impasse aujourd'hui.
Quand vous voyez Toulon avec une équipe remaniée, le Racing avec une équipe remaniée, c'est là que ça montre les profondeurs d'effectifs dans certains clubs.
Et puis même si on regarde l'ASM à Toulouse,
n'a pas été ridicule.
On l'a vu Toulon ici.
On va pas refaire l'histoire de ce match, mais c'est vrai que 7-6 à la mi-temps, c'était... En 7-3, je crois. Peu importe. Mais ils sont.
On aurait pu faire 7-6, mais le drop a été raté. De Bello.
Ils sont restés en match jusqu'à l'heure de jeu, donc oui, tout à fait. Avec les équipes remaniées, on peut encore, mais c'est pas des impasses. Les impasses, c'était quand le staff, un peu à l'ancienne, laissait un peu flotter les rubans et qu'il faisait pas remonter en termes de motivation. Voilà quoi. C'est.
Envoyer les Marie-Louise.
On activait pas les leviers qu'on active sur certains matchs où là, il faut vraiment se foutre à 120%.
Merci messieurs, on va enchaîner avec le deuxième thème de ce podcast, c'est la Challenge Cup qui débute ce week-end avec l'ASM qui va recevoir Édimbourg. Ce sera ce vendredi avec cette question, quelles ambitions le club auvergnat peut-il viser dans cette compétition? Alors une compétition, pour reprendre les termes de Christophe Furios samedi soir après le match contre le Racing, qui ne l'excite pas.
Ça c'est génial.
C'est une compétition qui commence à être excitante à partir des quarts de finale. C'est, chaque année, c'est pareil. Ouais, même les
demi, voire finale.
Un peu excité que le trésorier du club si les matchs sont à domicile, quoi. Enfin,
oui.
Non, c'est vrai, il y a cette donnée-là, et puis souvent...
En sachant que ça commence dès les huitièmes, même match de phase finale, cette saison, voilà.
Oui, parce que bon, il y a, hormis, bon, on va mettre entre parenthèses l'exotisme géorgien qui atteint cette équipe au mois de janvier, il a raison de dire aussi qu'avec Edimbourg, Gloucester et Clancy, enfin les Scarlets, ça faisait une petite poule de Champions Cup il y a quelques années, hein, c'était pas...
Ça, c'est vrai.
Donc c'est quand même des adversaires qui tiennent la route, a priori. Hein. Après, bon, voilà, quoi, c'est le change européen en termes d'exposition, de notoriété. Bon, c'est pas l'ASM qui va cracher dessus parce qu'elle l'a gagné trois fois.
Non, il faut pas oublier quelque chose. À ce stade de la saison, on a plutôt envie de dire que ça serait une cerise éventuelle sur le gâteau. Mais sur les dernières saisons, ça n'a pas concerné que l'ASM. Mais des fois, il n'y a pas de gâteau quand le club est largué pour les qualifications. Donc il faut peut-être se contenter de la cerise. Et c'est une configuration de saison qui peut tout à fait arriver à l'ASM, hein. Si l'ASM n'est plus dans la course pour la qualification dans le top 6, le challenge européen peut devenir quelque chose de très très intéressant.
Moi, je trouve qu'elle elle tombe au bon moment pour un club comme Clermont, avec un staff, enfin Curios, qui a tendance à quand même à aligner son équipe très régulièrement. Là, au moins, il va pouvoir, il l'a dit, hein, relancer des joueurs. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on n'a pas trop vus qui va remettre un peu sur le terrain, sans la pression forcément du résultat, même si...
Et sans la contrainte des gifs.
Justement, on a l'impression que cette compétition, l'ASM l'aborde sans pression. C'est ce qui transpire, il n'y a pas de pression particulière.
Au début, il ne voulait pas l'avouer, mais il a fini par entre les lignes. On comprenait bien qu'il y aura beaucoup moins de pression que quand il a été à Montpellier ou quand il est en déplacement ou quand il reçoit des clubs.
Le Racing ce week-end.
Ça sera pas la même pression vendredi contre Edimbourg que contre le Racing, ça c'est clair.
Alors, on se rappelle l'an dernier, c'était en quart de finale au Pays de Galles, c'était les Scarlets, hein. Un match que tu perds, d'extrême limite. Je crois que tout le club aurait bien été content de se qualifier en demi-finale et d'aller au bout de la compétition.
En sachant, je ne vais pas dire de bêtises, mais la demi-finale aurait eu lieu à Clermont, si je ne me trompe pas.
Et de jouer en finale contre Toulon, oui. Est-ce que c'est eux qui ont gagné l'année dernière ?
C'est Toulon, ouais. Le tenant du titre. Pour rappel, donc l'ASM qui va recevoir Edimbourg ce vendredi, ensuite il y aura un déplacement du côté de Gloucester la semaine suivante, puis début janvier, réception des Scarlets, et ce déplacement en Géorgie pour défier les Black Lions. Alors il faut finir parmi les 4 premiers des 3 poules de Challenge Cup pour se qualifier pour les 8e de finale. Les 8e de finale qui accueilleront également les 5e des 4 poules de Champions Cup.
On va se le faire au ralenti. Encore une formule alambiquée comme c'est le faire le PCR.
Avec 2 matchs gagnés, vous êtes sûr d'être en 8e. Je pense qu'il y aura même des qualifiés à une seule victoire. Et puis, si à 3 sur 4, tu reçois un quart et en 8e et en quart peut-être. Ouais.
Quelle usine à gaz quand même. On se fait la réflexion tous les ans, on en parlera encore. Mais quelle usine à gaz quand même, ces règlements européens.
Ouais. L'ASM peut-elle viser une 4e victoire dans cette compétition ?
Il est trop tôt pour le dire, mais, mais pourquoi pas ? Ça dépendra qui sera reversé de Champions Cup aussi.
Ça dépendra de la situation de l'ASM au printemps, quand on attaquera les phases finales. Ça dépend de tellement de paramètres que c'est impossible à dire.
S'il y a des grosses équipes qui sont reversées en Champions Cup, ça sera forcément.
Quel va être l'état d'esprit des autres clubs ? Ouais. On a cru comprendre que Montpellier voulait se relancer comme il y a 2 ans par cette compète. À voir. Est-ce que tout le monde va jouer ce truc à fond ? Oyonnax, Perpignan, on n'en sait rien. Quoi. Enfin bon. C'est très compliqué à dire.
J'ai bien compris, il faut attendre les matchs de phase finale.
On va prendre les matchs.
On va prendre les matchs. On va prendre les autres, je sais pas combien, au mois d'avril, mon cher Manu.
Bon, mais très bien. On approche de la fin de cette émission. Avant de nous quitter, on va basculer sur d'autres top et flop, la plus traditionnelle, comme à chaque fin d'émission. Ce que vous avez retenu de l'actualité rugby de ce week-end, on va commencer avec toi, Christophe. Un top ou un flop ?
Mon top, alors c'est un peu le match de hier soir, Stade Français Toulouse, avec en particulier match, ouais. la mêlée parisienne, et ça me permet de rendre un petit hommage à notre ami David Zirakashvili, qui a pris en main cette année la mêlée parisienne, C'est costaud, c'est robuste, et même avec Cyril Ball en face, ça a bien plié côté toulousain. Et là, ça a été bien arbitré parce qu'ils se sont fait pénaliser.
Ils ont... Tiens donc.
Voilà. Donc, bravo à cette équipe et notamment à Samélé.
Fred.
Alors moi, c'est un semi-top ou un semi-flop. Je ne sais pas où il faut le ranger. Vous me direz, mais c'est, je voulais saluer cette démarche judiciaire de plus de 200 joueurs anglais pour la plupart. Mais il y a des Gallois, il y a des joueurs anglophones. Action judiciaire menée contre les instances du rugby pour dénoncer tout ce qui concerne les commotions. Donc il y a du lourd dans ces 200 joueurs. On en a connu à l'ASM, donc Jamie Cudmore, on sait qui est à la pointe de ce combat depuis pas mal de temps. On a appris que Regan King faisait partie des joueurs concernés par cette démarche. On a des Steve Thompson, beaucoup de joueurs aussi, Alex Popham, etc., des joueurs qui sont atteints de démence précoce. Voilà, je crois que c'est malheureusement nécessaire aujourd'hui de passer par la case judiciaire. C'est sans doute par ces démarches-là que les choses avanceront dans le bon sens.
Mais il se retourne contre qui ?
Contre toutes les instances, donc la fédération, aussi bien World Rugby que les fédérations nationales.
À part arrêter ce sport-là, je vois pas.
Oui, mais c'est assez parlant, effectivement, les témoignages et puis la situation des joueurs, leur cas personnel.
Alors c'est vrai que c'est pour la plupart une époque qui était un petit peu différente, où il n'y avait absolument aucune prévention, aucune sensibilisation.
Pour moi, la prévention, la sensibilisation, elle existe. Après, est-ce qu'il faut légiférer ?
Aujourd'hui, elle existe.
Il faut peut-être légiférer pour faire en sorte que le joueur soit protégé en cas d'accident, juridiquement. Mais aussi les clubs, quoi. Enfin, vous pouvez pas être à la merci d'un club qui vous fasse un procès parce qu'il a pris un KO, parce qu'il a pas mis la tête où il fallait sur un plaquage. Je veux dire, c'est comme si un boxeur portait plainte contre les instances parce qu'il a pris 3 KO, quoi. Enfin, il y a quand même une notion de risque à prendre en compte.
Oui, ça va.
Que les joueurs ont un peu oublié. Enfin bon.
Non, je te trouve un peu dur, ça va un peu plus loin que les risques du métier. Et c'est vrai qu'il y a eu des abus. Et aujourd'hui, alors, j'insiste là-dessus, oui. Voilà, il y a des sensibilisations qui ont été, des campagnes qui ont été menées. On sent qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde est un peu plus concerné là-dedans. Mais il y a certainement des étapes supplémentaires aussi à mener pour aller plus loin et pour essayer de rendre ce sport encore plus sûr.
Pas plus sûr, ça va être.
Ça veut pas dire que le risque zéro n'existe
non,
pas.
Non, il n'existera pas, mais bon, il faut une évolution des règles, tu veux dire
Par exemple, ça peut être une évolution des règles.
Pourquoi pas, mais après, je crois qu'aujourd'hui, tout est en termes de prévention. Ce qui me gêne, c'est les joueurs qui ont arrêté il y a déjà longtemps. Alors, évidemment que les préventions n'étaient pas les mêmes, mais on ne peut pas faire à posteriori des procès. Aujourd'hui, les instances, elles ont évolué.
Mais eux, 10
jours,
estiment,
pour, 10 jours
si
pour un protocole.
Si j'ai bien lu l'objet de leur
démarche. Pour une commotion, je veux dire.
Ce qui est intéressant dans leur démarche, eux, ils estiment que le mal est fait. Et, malheureusement, le mal est physique. Et voilà, il y a même des morts. Il y a certains joueurs qui sont décédés aujourd'hui qui font partie de la liste puisqu'ils sont représentés par des membres de leur famille. Ce qui est dommageable pour eux, l'objet de cette démarche, en fait, c'est surtout sensibiliser, essayer de faire bouger les choses pour qu'aujourd'hui, en fait, il y ait davantage de choses mises en place. Pour eux, évidemment, le mal est déjà fait.
Et pour retrouver plus d'infos sur ce sujet, sur lamontagne.fr, si vous voulez en savoir plus. On termine avec toi, Arnaud.
Mon flop, ça va être le Montpellier et ce qui se passe autour de ce club et le recrutement des divers... Des divers techniciens qui ont été faits ces derniers jours. J'ai du mal à voir la cohérence. Enfin, je trouve que ça part dans tous les sens.
Je vais t'aider, il n'y en a pas.
Ah, merci.
C'est peut-être pour ça, non ?
On me disait dans mon oreillette, effectivement.
Le président doit être dans le bâtiment, non ? Il empile les briques, non ?
Voilà, le spécialiste de l'échafaudage, là, je ne comprends pas l'échafaudage qu'il est en train de monter à Montpellier.
Alors, c'est le ravalement de façade permanent.
Il dit donc le bon président Altrad de Montpellier disait j'ai pris Bernard Laporte parce que c'est un grand technicien, il a une cohérence et une connaissance de rugby. Enfin, moi, quand je vois les entraîneurs et les techniciens qu'ils recrutent, c'est des gens qui ne travaillaient plus et qui sont au chômage. Alors, n'importe quel conseiller Pôle emploi peut être directeur sportif de Montpellier si c'est pour prendre des gens qui sont au chômage. Enfin, je vois pas la cohérence. J'ai du mal avec, avec Patrice Collazo. Alors, s'il m'écoute, ça m'étonnerait beaucoup, mais il ne va pas être content. Mais je vois pas comment un Patrice Collazo va pouvoir relancer un Montpellier, un club en plein doute.
Moi,
c'est un club qui doute dans le jeu. C'est un club qui c'est pas trop sur les fondamentaux.
Il y a un poste où ils n'ont pas recruté, mais c'est celui de psychologue. Là, parce que
je me demande
comment ils vont pouvoir gérer. Là, il y a quand même de l'ego. Au mètre carré avec tous les noms qui ont été recrutés, Etcheto, Laporte, Collazo,
Christian Labitte,
on a l'impression que c'est de la gestion
à la petite aussi, oui. Le dernier en date.
On a l'impression que c'est de la gestion à la petite semaine, et je suis désolé, mais on relance pas un club comme ça. Faut une vision, faut de la cohérence, faut un projet. Là, j'ai du mal à voir où va ce club de Montpellier.
Oui, puis c'était pas un club qui devait être taillé entre guillemets pour jouer le maintien au début de la saison. Et on a vu des exemples récents depuis plusieurs saisons maintenant, les clubs qui sont pas forcément préparés à se battre pour le maintien.
Ça vaut pour tous les sports pareil.
Il y a des mauvaises surprises derrière. Mais merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Merci de m'avoir accompagné. Lundi prochain, vous retrouverez l'ami Greg Gomez. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. Salut.
Merci, au revoir. Salut.